les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.
C'est dimanche, il est 21h à Brest. Vous êtes à l'écoute de Radio U sur 101.1 FM, chers auditeurs, bonsoir. C'est l'heure de mon émission intimiste et interactive, les élucubrations d'Hermeline, un dimanche sur deux sur Radio U 101.1 FM. Une chronique intime, un sujet universel, des confidences en partage, ça se passe entre vous et moi. N'hésitez pas à appeler le standard de Radio U au 02 98 03 82 61 si vous voulez passer à l'antenne. Ce soir, l'élucubration parle de rencontres et d'incarnation, de sosie et de naïveté. Chers auditeurs, vous pouvez dès à présent et tout au long de l'élucubration contacter le standard de Radio U pour témoigner, partager, réagir. 02 98 03 82 61, c'est parti. J'ai 20 ans. J'ai commencé à bosser, premier job après des études, comment dire, à la surface du programme. Je suis engagée comme secrétaire à Promogolf, une agence événementielle spécialisée dans le golf. Le golf ? Le golf ? Ce sport qui n'est pas un sport ? Ce sport qui se joue en costume ? Et où le silence est plus important que le score ? Le golf, quoi ? Allô ? Personne n'a répondu, même Nabila aurait raccroché. Et puis à l'époque, les influenceurs s'appelaient encore publicitaires et gens de marketing. Ils lisaient Bec BD pour se donner une contenance. À Promogolf, dès le début, je suis une imposture. Le directeur veut me virer. Il est dans son rôle et il n'a pas tort. Je ne sais ni téléphoner, ni écrire un courrier. Je ne connais aucune formule de politesse. Replié en dedans de moi, farouche et rougissant, le regard bas d'un cocker sur le qui-vive. À ce sujet, parfois, et malgré mes écritures, réécritures et analyses, constellations familiales et séances de psychophanie, je n'ai pas tellement changé. La petite fille et l'ado apeuré demeurent. Contrite face à l'autorité, à la hiérarchie, et même face au piano. Au même titre qu'apprendre les tables de multiplication par cœur ou que mettre la barre de division entre les deux traits du signe égal, j'étais anxieuse à l'idée de faire une fausse note ou d'appuyer trop fort sur la pédale. Le reste, les choses de la vie, je n'en ai rien su. Elles m'ont été tues.
Il ne m'a pas appris l'anglais. Il ne m'a pas appris l'allemand. Ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées. Pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture. Faire monter une mayonnaise, monter une SARL, tenir un intérieur. Il ne connaissait pas grand-chose en mathématiques, ni équations de Schrödinger. Mais pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à deux mains.
Mon boss John refuse de me virer. Il s'interpose, il croit en moi. Il dit qu'il va révéler mon potentiel. Potentiel. Ça sonne comme pénitencier version LinkedIn. C'est comme prometteur dans une critique de film. Ça veut dire que c'est pas encore ça, mais qu'on va surveiller de près. Spoiler alerte, je n'ai pas déçu. Mon boss John va en effet révéler mon potentiel. Et vite, il ajoute un délai. Laisse-moi faire, donne-moi un mois. Ce gars, c'est Gandalf sur un parcours 18 trous. Il croit en la magie. À Promogolf, nos partenaires sont ultra chics. BMW, Cartier, Cyrillus, Hermès, Rolex et Fred Joyer. Si je sais résister et m'adapter au vent contraire, vraie force 10, si je peux me permettre ce jeu de mots facile rapport à la gamme du célèbre joaillier, face à ses sponsors et gens de luxe, je suis fraîche et ingénue. Celle que j'abandonnerai sans pitié, une fois propulsée d'IRCOM au sein du groupe La Poste, passant de l'événementiel sportif au service public et aux machines qui trient notre courrier. À l'époque, en pleine vogue. Le chic épistolaire pour dire ce qui ne se dit pas à l'oral, ce que les autres nous gaslight, a depuis bel et bien périclité, comme ma fraîcheur. La fraîcheur, on la quitte vite. La retrouver, c'est comme chercher ses clés au fin fond d'un cabas de plage. Mais où en étais-je de cette élucubration ? Ah oui, à cette époque, où je ne suis plus Bélygue, mais Elsa.
On ne peut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me
Elsa, oui, la chanteuse. J'en étais le sosie parfait, à tel point qu'on m'arrêtait dans la rue pour un autographe. Les caissières des supermarchés me fixaient d'un air suspect et au bureau, la file d'attente n'en finissait pas. Les coursiers montaient pour vérifier. Dis donc, t'as pas vu Elsa ? Mais si, elle bosse ici. Même les vigiles commençaient à douter de leur réalité. C'est marrant cette histoire de sosie. Toute petite déjà, j'étais fascinée par cette idée qu'on a tous un sosie sur Terre quelque part. Môme, je regardais Polly, le poney justicier à la crinière blonde. Je me souviens très bien que dans l'épisode de Polly en Tunisie, Polly mène l'enquête pour réconcilier deux jumelles kidnappées et séparées à la naissance, Nathalie et Sonia. Récemment, j'ai découvert ce projet sur le net, Je ne suis pas un sosie. Un projet du photographe canadien François Brunel, consacré à des couples de sosies qu'il traque de par le monde et qu'il photographie en noir et blanc. Je l'ai contacté pour lui parler de mon expérience avec Elsa. Il m'a répondu « Le mystère de la ressemblance nous porte à réfléchir sur qui nous sommes. » Qui sommes-nous ? Si vous souhaitez témoigner de votre expérience de sosie, ou de celle ou de celui que vous êtes, n'hésitez pas à appeler le standard de Radio U sur 101.1 FM au 02 98 03 82 61. En tout cas, devenir Elsa, on peut dire que j'en ai bien profité au siècle dernier. Je réservais une table au Bouddha Bar ou au Balladjo, au nom de la chanteuse avec ma plus belle voix grave. Allô, oui, une table pour Elsa. Elsa, t'en vas pas ? C'est ça. On arrivait, carré VIP, champagne, calepin pour autographe. J'en ai signé un une fois à côté de celui de Vanessa Paradis. Je vous jure, j'ai hésité à rajouter une étoile, comme sur le Walk of Fame à Hollywood. Genre moi aussi, je suis une star. Dans ce monde-là, il faut juste un prénom et on passe partout. Elsa, Vanessa, Ophélie.
J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme.
N'empêche ce prénom, Elsa, usurpé bien malgré moi, et ma ressemblance frappante avec la star des années 90, ça n'a pas suffi le soir où Georges Clooney s'est pointé au Barfly. C'est Céline Balitran qui a remporté la mise et qui s'est retrouvée avec lui à L.A. à élever son cochon rose de compagnie. Qu'importe. Je m'étourdis dans toutes les boîtes de nuit parisiennes pendant plusieurs années, même les jours de neige. Le Taunay, on sait dans les lucubrations précédentes que je n'y suis jamais entrée. Mais le bus Palladium, le Globo, les bains-douches, Régine, j'ai tout rattrapé. Ah zut, j'ai encore digressé, c'est pas vrai. Si vous arrivez à me suivre, chers auditeurs, et que vous avez la nostalgie de vos 20 ans, au bus Palladium, à la Loco, à la Chaumière, à l'Iguane, au Bilitis, au Stendhal, au Taunay ou ailleurs, composez le 02 98 03 82 61, le standard de Radio U 101.1 FM, et parlons-en. Mais revenons à mon élucubration du jour et à Fred Joyer. Un jour, mon boss, John, me dit « Elsa, demain, tu viens avec moi chez Fred Joyer, rue Royale. Rendez-vous avec Monsieur Fred Joyer. Alors habille-toi un peu, coiffe-toi, fais un effort, parce que là, tu ressembles à une hippie. Surprends-moi, Elsa. » J'ai rien dit. J'ai souri. J'avais pas trop la répartie à l'époque. Qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre à John ? Moi ? Hippie ? C'est un style, si tu veux savoir. Bohème chic. J'ai juste quelques décennies d'avance sur les bobos. Tu verras. Paraît que les Verseaux sont visionnaires. Tout s'explique. En vrai, je n'ai rien dit. Et John a continué. Avant, j'ai un déjeuner au Cercle Foch. Retrouve-moi à 14h devant l'entrée dans la contre-allée. J'irai en taxi. Tu prendras une Peugeot de société. Ok. Le lendemain, je portais mon costume étriqué Cerruti des remises de prix. Des ballerines qui m'écrabouillent les pieds. Peut-être même les cheveux attachés. Le brushing, fallait tout de même pas exagérer. Mais voilà. Dans le parking, j'enclenche la première au lieu de la marche arrière. Bam ! Droit dans le mur. La Peugeot emboutie. Ah, pas le temps d'y réfléchir. Je prends mon auto-Bianchi à Barthes pas lavé, direction l'avenue Foch. Je louvoie. Tête à queue et queue de poisson. Je me gare dans la contre-allée, en avance, fenêtre ouverte, clope au bec, musique à fond. Je patiente. Je me sens comme dans un clip de Mylène Farmer, tourné par Audiard. Atmosphère sensuelle éthérée et dialogue gouailleur de type louche, genre « M dame, tu bosses ou t'as ton godot ?» Et soudain, une Jaguar se gare devant moi. Un type en sort, cheveux au vent plus épais que ceux de David Hasselhoff dans K2000. Il me regarde, s'approche, me demande « C'est combien ?» Je réponds spontané « Il y a un parc-mètre juste là, monsieur. » Chewing-gum et fumée de cigarette en prime. Le type râle, remonte dans sa type S, démarre en trombe. 2 minutes plus tard, une Mercedes. Même manège, même question. Là, je commence à douter. C'est quoi cette boucle trop strange ? Mon boss John arrive. Wayfarer, Lacoste rose, Glen Muir sur les épaules, pantalon à pinces beige. Ses mocassins à glands claquent dans l'allée marbrée. Il est canon. Un mix entre George Clooney et Marcello Mastroianni, voyez ? Il avise ma voiture. Son visage se crispe comme un peu traité sur green humide. Elsa, c'est quoi cette caisse pourrie ? Ben, c'est la mienne, tu sais bien. On n'avait pas dit la Peugeot ? Dit-il en m'arrachant la clope d'entre mes lèvres pour la jeter dehors avec une grimace de dégoût. J'en profite pour lui cracher mon malabar dans la paume qu'il me tend. Moi, je t'expliquerai. Il soupire. Grommelle. J'essaie de faire diversion. Ton déjeuner, c'était bien ? Rien. Pas un mot. Alors, pour détendre l'atmosphère, je dis « Tu sais quoi ? Il y a deux types qui m'ont demandé combien c'était de se garer ici. Ils ont même pas vu le parc-mètre juste là. » Mon boss John se retourne vers moi. Lentement. Au ralenti. Il retire ses Ray-Ban. Elsa, cette contre-allée, c'est celle des putes. Et vous, avez-vous conservé votre fraîcheur, votre naïveté, cette part d'insouciance qui nous rend disponibles aux choses de la vie ? Et si vous rencontriez aujourd'hui votre moi jeune adulte ou adolescent, qu'auriez-vous envie de lui dire ? Et si vous reveniez en arrière avec ce que vous avez appris au fil des rencontres de votre vie, emprunteriez-vous le même chemin ? Je vous attends au 02 98 03 82 61 pour en parler.
Les élucubrations d'Herméline sur Radio U 101.1 FM.
On me fait signe en régie qu'il y a des auditeurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, chère auditrice. Bonsoir. Merci de votre appel.
Ben, je suis contente de pouvoir être entendue parce que j'ai écouté cette chronique avec beaucoup de nostalgie. Ça m'a rappelé plein de choses à Paris aussi.
Ah oui.
Alors moi, je suis Christelle.
Ouais. Bonsoir Christelle.
Donc j'ai eu la chance de vivre une expérience un petit peu similaire. Alors, c'était dans le domaine de la communication. Et un peu comme vous, j'ai été parachutée dans un milieu que je ne connaissais pas. Je sortais fraîchement de mes études à Paris 10, à Nanterre, donc avec une vie, tout ce qu'il y avait de plus simple.
Des études de quoi vous avez fait ?
Pardon ?
Vous avez fait des études de quoi ?
Moi, j'ai fait des études de lettres modernes.
Ah, très bien.
Voilà, donc j'avais fait 5 ans d'études de lettres modernes. Et j'avais pour projet, effectivement, de travailler dans la communication. C'était difficile de pouvoir y entrer et par l'intermédiaire de mon papa, j'ai pu avoir accès à une très belle agence de communication à Paris pour pouvoir faire un stage. L'objectif, c'était de découvrir le métier de la communication. Donc, j'ai été stagiaire dans cette agence dans un premier temps.
On peut citer le nom de l'agence et quelles étaient les missions que vous aviez ou pas ?
Oh bah oui, oui. Alors, c'est une agence qui n'existe plus. Hein. C'est l'agence Solange Pricker et Associés.
D'accord.
Qui était une agence qui se trouvait boulevard Exelmans à l'époque. Moi, j'étais en relations presse, relations publiques et conseil en communication.
Okay.
Et je travaillais dans le domaine politique et économique. Mais au début, évidemment, je n'avais pas beaucoup de missions. Je ne faisais qu'observer. On m'utilisait plus pour rédiger les communiqués et puis les dossiers de presse. Et au fil du temps, j'ai eu de plus en plus d'opportunités de faire des petites missions. Et c'est vrai que, bah, un petit peu comme vous, je me suis trouvée dans des situations il y avait beaucoup de luxe autour de moi et j'en avais pas l'habitude. Donc, quand on organisait des conférences de presse, c'était au Plaza Athénée, c'était au Georges V, car évidemment, ça me changeait du resto universitaire que je fréquentais à Nanterre.
Oui, c'est sûr.
Et voilà, je me suis retrouvée un petit peu dans ce milieu qui m'était totalement inconnu. Et j'ai souvenir d'une anecdote. J'ai commencé à avoir des PME, on me proposait d'avoir des budgets à moi. Et j'avais un budget qui s'appelait à l'époque les pages soleil. Et les pages soleil, c'était le premier concurrent des pages jaunes de France Télécom.
Ah oui.
Et le directeur de cette boîte, donc c'était mon contact principal pour organiser les conférences de presse. Et je devais organiser une conférence de presse peut-être 3-4 jours après. Et il me dit, écoute Christelle, ce jour-là, évidemment, tu t'habilleras en jaune.
En et jaune, là, pourquoi ça c'est... Ah oui, soleil. Jaune, soleil.
Voilà, pour faire référence aux pages soleil.
Ah oui, ça c'était et les là, années 90-80, ouais. Vous aviez quel âge
Moi j'avais 20. Tu vois, ça, c'était, vous voyez, c'était dans les années 90. J'avais entre 23 et 25 ans quand j'ai fait ce travail-là.
Ouais.
Donc c'était une autre époque. Et je n'ai pas osé lui dire, mais je n'ai pas de jaune dans ma garde-robe, ça va être compliqué. Et puis, j'avais pas de gros moyens parce que j'étais vraiment toute jeune dans ce métier. Donc, je vivais dans une chambre de bonne, j'avais vraiment pas beaucoup de moyens. Et donc, je suis allée voir une des chargées de com qui était ma référente. Et je lui ai dit, écoute, je suis très embêtée parce qu'il veut absolument que je sois habillée en jaune, mais moi, j'ai pas de jaune. Et là, elle me dit, écoute, si t'as rien ce midi, on va faire les boutiques et puis on va acheter un très beau tailleur jaune. Et je me suis retrouvée avec un tailleur Cacharel jaune, des chaussures Mansfield magnifiques. Enfin bon, j'étais habillée comme pour aller à un mariage. Mais ce n'est pas moi qui ai payé, c'était dans les frais.
Ouais, mais à l'époque, c'est vrai qu'on sortait la carte bleue. Pardon, je vous ai coupé. À l'époque, on sortait la carte bleue facile, hein.
Voilà, mais c'était pas. En fait, c'était le client demandait que je sois habillée en jaune. Elle m'a dit, mais c'est normal, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu l'auras ta tenue jaune, mais c'est lui qui va payer. Et donc je me suis retrouvée. Alors j'ai gardé les vêtements. J'étais ravie parce que j'avais un très beau tailleur, habillée de manière, c'est vrai, très très luxueuse pour mon âge, hein, parce que j'avais pas l'habitude de porter des vêtements de marque.
Ouais, je comprends.
Donc ça a été c'était un petit peu, enfin c'est ce que j'ai retenu de votre chronique, c'était un peu enivrant, c'est vrai que c'était grisant aussi de fréquenter ce milieu. Et donc c'est vrai que ça m'a rappelé de très bons souvenirs à Paris. Alors j'ai écouté aussi vos nuits parisiennes en boîte. On a fréquenté un peu les mêmes, on aurait peut-être pu se rencontrer. Moi j'allais plutôt, c'était les bains-douches et le palace.
Ah oui, moi c'était vraiment le baladjo, le plus souvent le baladjo, et les bains-douches un peu moins. Balladjo et qu'est-ce qu'il y avait, le Palace aussi, mais un petit peu moins. Mais c'est marrant parce que quand j'ai aménagé en Finistère, j'ai rencontré plein de gens avec qui j'ai discuté et beaucoup avaient passé leur jeunesse à Paris. Et tous me... Je racontais déjà mes chroniques, mais sous forme littéraire. Et les gens qui me lisaient me racontaient déjà « Ah oui, mais moi aussi, j'ai été dans toutes les boîtes de nuit, ça me rappelle des souvenirs. » Et je trouve que ce « moi aussi », c'est une petite fierté parce que finalement...
On a des points de rencontre sur nos passés, hein. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on parle des années, c'était un autre siècle, hein. Dans les années 90, la vie était différente. Et c'est vrai que moi, ça m'a rappelé pas mal de choses.
Il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas de guerre, c'était fluide.
On a quand même eu 92, ça commençait, mais disons, il n'y avait pas les tensions qu'on peut connaître aussi aujourd'hui en Europe, c'est sûr. Donc c'est vrai que c'était des années d'insouciance. Et j'ai retrouvé aussi, vous décrivez un peu votre naïveté. Moi, je me trouvais aussi parfois très naïve dans ce milieu-là. Je découvrais, en fait, c'est un vrai... Pour moi, ça a été vraiment un chemin initiatique en entreprise, parce que je ne connaissais pas le milieu de l'entreprise. Donc j'ai moi aussi apprécié ces années-là. Et quand j'y pense, c'est aussi avec pas mal de nostalgie.
De nostalgie et de la bienveillance, mais on était jeunes, on n'avait pas la REF, parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas la REF, souvent. Nous, on ne l'avait pas. On n'avait pas la REF, on n'avait pas la répartie. Et on était catapultés dans ce monde un peu... vraiment privilégié. Ouais. Et on y allait avec insouciance et naïveté. Et je crois que c'était ça notre force. Ça m'a fait penser, quand je l'écrivais, à Pretty Woman. On a eu la chance de rencontrer des mentors, entre guillemets, qui nous ont permis de faire un petit chemin dans ce monde, quoi, de trouver une place assez vite.
Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi autour de moi des professionnels, des journalistes notamment, qui étaient beaucoup plus âgés et qui m'ont accueilli avec bienveillance, qui m'ont permis d'aller assister à des émissions de télévision pour voir comment ça fonctionnait. En fait, ils étaient très pédagogues et très présents. Donc, c'était de belles années. De belles années.
Ouais. Je vous rejoins sur les journalistes parce que sur les tournois de golf que j'organisais, alors... Évidemment, comme je ressemblais vraiment à Elsa, tout le monde m'appelait Elsa. Et les journalistes m'appelaient Elsa, ils écrivaient Elsa dans leurs articles. Et bien longtemps, bien des années après, quand j'en ai recroisé certains par hasard dans d'autres contextes, ils m'appelaient encore Elsa. En fait, personne n'avait compris que finalement, j'avais une autre identité.
Voilà, c'était un nom d'emprunt, mais involontaire.
C'était involontaire. Et c'est vrai que, comme vous, les journalistes étaient assez bienveillants et très attentifs. Et ils étaient paternalistes un petit peu, quoi. C'était...
Ah, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai souvenir d'Emmanuel Delataille, notamment, que j'ai trouvé extraordinaire. C'était quand même le journaliste qui présentait le journal télé dans les années 70. Et donc, qui avait évidemment l'âge largement d'être mon père, qui m'avait proposé d'assister au Club de l'Enjeu. Donc, j'ai pu assister au Club de l'Enjeu, voir la préparation du direct, assister à l'émission avec lui. Alors, j'avais aucun rôle dans j'étais juste en tant que spectatrice, hein. Et à l'issue de l'émission, on a fait tout le débrief ensemble, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de croiser des personnes qui m'ont appris beaucoup, qui m'ont permis aussi de progresser dans ce métier, que je n'ai fait que 2 ans, mais ce n'est pas grave.
Oui,
c'était une très belle expérience.
Moi, je suis restée au total, entre Paris et Cannes, je suis restée 5-7 ans, je ne sais plus, mais c'est vrai que c'est une expérience inoubliable. Et moi, qui étais, pas spécialement timide, mais en tout cas... Je ne savais rien faire, honnêtement, je n'avais pas étudié, j'étais à l'Ouest. Ça m'a donné... Il a révélé mon potentiel, ce fameux John, et cet univers-là a révélé mon potentiel. Parce que quand on est catapulté à 20 ans, seul sur un golf, mettre les banderoles, faire la remise des prix, prendre un micro pour la première fois, il faut y aller, quoi. On ne se pose pas de questions. C'est des réflexes qu'on conserve toute sa vie.
Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que c'est plutôt enrichissant et c'est quelque chose qu'on conserve effectivement toute une vie pour d'autres expériences, ça peut servir aussi.
Eh bien Christelle, merci de votre appel.
Eh bien, de rien. En tout cas, j'ai vraiment apprécié votre chronique. Ça m'a replongée dans le passé.
Ah, c'est gentil. J'espère que d'autres auditeurs auront le même réflexe que vous et n'hésiteront pas à appeler cette fois-ci ou des prochaines fois. Et écoutez, à bientôt peut-être et bonne fin de journée, de soirée.
Très belle soirée
nuit,
à vous.
De nuit, du coup. Il fait nuit. Au revoir, Christelle.
Au revoir. Merci. Bonne soirée.
On me fait signe en régie qu'un nouvel auditeur est en ligne.
Oui, bonjour.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Merci de votre appel.
C'est gentil de prendre mon appel. Écoutez, j'ai écouté avec attention votre émission.
C'est gentil.
J'ai l'impression de me reconnaître
dans
la personne que vous mentionnez à l'antenne, le fameux John.
Mais oui, il me semblait bien reconnaître la voix de John. John, un personnage qui va devenir un peu récurrent dans ses élucubrations un dimanche sur deux. Alors on va faire connaissance avec... je vous propose de vous présenter, John, pour que nos auditeurs mettent une voix sur un personnage de la chronique, si vous voulez bien. Mon mentor, donc.
Oui, merci. Alors, effectivement, j'étais à la tête de cette entreprise que vous citez dans vos élucubrations. Et j'ai eu le bonheur et le plaisir de recruter cette fameuse Elsa au sein de l'entreprise. Qui effectivement au début c'était un pari audacieux parce que
c'était un peu godiche.
C'était une personne qui n'avait aucune formation, on va pas se voiler la face, qui ne savait pas grand chose, mais toutefois moi j'ai décelé dans cette personne je me suis dit il y a forcément quelque chose de bon. Il y a forcément quelque chose d'intéressant, et puis j'ai résisté parce que c'était pas facile, parce qu'au début, effectivement, comme vous le citiez dans votre élucubration, on ne voulait pas la garder.
Et non, je me souviens du directeur de l'époque il est rentré dans le bureau un jour, on était tous les deux, il y avait peut-être même quelqu'un d'autre dans le bureau, il est rentré, il était assez directif et très autoritaire, et il était cash. Je me souviens de rentrer, il avait dit devant moi, cette fille est nulle, on va pas pouvoir la garder, John.
Oui, c'est vrai. Et après, j'ai dit, écoute, laisse-moi une dernière chance. On va en faire quelqu'un de bien. Et je suis sûr que son potentiel et son talent va se révéler. Et je pense qu'il faut toujours laisser la chance aux personnes qui débutent. Ça, c'est ma stratégie. Et à la limite, je vais vous dire, je préfère toujours recruter quelqu'un qui a moins de connaissances, moins de talent, comme on pourrait l'exposer à l'occasion d'un entretien, qu'une personne qui, à la limite, ne sait pas grand-chose, mais dont on décèle le potentiel et surtout on décèle qu'elle a envie ou il a envie de bien faire et de vouloir faire. Voilà.
Je ne sais pas si j'avais envie, mais j'étais là. J'ai été recrutée. Alors, l'entretien de recrutement, j'en parle dans une prochaine élucubration. Alors, on ne va pas spoiler tout de suite ce soir la manière dont ça s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu cet entretien de recrutement. Et je crois, le lendemain, j'étais à 9h12. Je me souviens des horaires. C'était 9h12 le matin.
À 9h12, le lendemain,
j'étais là. Ouais. Et à partir du moment où j'étais là, fallait que j'y aille, quoi. Que j'essaie, en tout cas.
Oui. Oui, et franchement, ça n'a pas été si long que ça. Il fallait trouver la motivation, il fallait trouver l'envie d'apprendre, et ça n'a pas été si compliqué que ça. Et au contraire, un vrai potentiel et un vrai talent se sont révélés.
En tout cas. C'est vraiment gentil d'avoir insisté,
mais
d'avoir
non,
résisté.
Au contraire, ça me fait plaisir.
Et d'appeler. Moi, je me souviens d'un événement qui a tout déclenché. C'est que je devais être là depuis 15 jours. Et on va se tutoyer peut-être, John, parce que finalement, on se connaît un petit peu.
Oui.
Alors, Ça devait être dans les 15 premiers jours. Hein, tu me dis, dans 15 jours, tu prends le combi Volkswagen et tu vas organiser, je ne sais plus quelle compète, à Deauville ou ailleurs, et toute seule. Et je me suis retrouvée toute seule au volant de ce combi Volkswagen. Je n'avais jamais conduit autre chose que ma petite auto Bianchi que je devais avoir depuis un an à peine. Le permis.
Grise.
Oui, mon auto Bianchi grise. Et je me suis retrouvée sur ce golf toute seule à mettre les banderoles, à faire à organiser la remise des prix, prendre le micro. On en parlait d'ailleurs avec la précédente auditrice qui a téléphoné, Christelle, qui a vécu une expérience un peu semblable. Elle sortait d'études littéraires et elle a été catapultée dans un monde d'événementiel également, assez privilégié, un peu comme cet univers du golf à l'époque. Et pareil, avec, je crois que c'est la naïveté et l'insouciance, et on ne se posait pas de questions à l'époque, qui fait qu'on y allait, et finalement, ça a marché, quoi.
Et finalement, vous avez bien réussi, tu as bien réussi aussi. Je pense qu'au bout d'un moment, tu dois saisir aussi, toi, à ton niveau, le fait que quelqu'un te fait confiance et que tu te dis, tiens, s'il me fait confiance, c'est que j'ai forcément un potentiel, il croit en moi et à la limite, alors c'est peut-être un peu prétentieux, je vais pas le décevoir. Bon, ça, c'est très prétentieux, mais de dire, allez, je me donne ma chance et je vais y arriver. Et effectivement, l'expérience de ce fameux combi Volkswagen, qui était quand même une grosse camionnette pour une jeune femme de l'époque. C'était courageux de prendre ça en main et d'aller organiser seul une opération en province. Mais c'était le métier. Et Dieu sait que dans notre société Promogolf, on a formé énormément, je dis bien énormément de jeunes à la fois à s'exprimer, à la fois à s'épanouir et à la fois à découvrir et prendre beaucoup d'assurance en soi. J'ai quand même la fierté de dire que chez Promogolf, un certain nombre de jeunes personnes sont passées et ont décroché par la suite des vrais beaux métiers grâce à cette expérience parce que, un, il y avait la confiance, mais deux, il fallait saisir cette confiance parce que il suffisait pas de dire « tiens, il me fait confiance, je pars ». Non, il suffisait de se dire « il me fait confiance, j'y vais et je vais réussir ». Parce qu'au bout d'un moment, il y a forcément une part personnelle qui rentre en ligne de compte et cette part personnelle, Elsa, t'as su la saisir et t'as su la réussir surtout.
Dans mon esprit, il y avait deux, pour résumer, il y avait deux critères, moi, qui ont, enfin deux éléments qui ont était déterminant. Le premier, c'est que tous les jours, j'entendais « Elsa, surprends-moi !» Et finalement, c'était un gimmick. Je rentrais chez moi et je me disais « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour le surprendre ?» Et c'est vrai que ça m'a beaucoup motivée, ça m'a amusée avant de me motiver. Et le deuxième élément, c'est que j'ai rencontré aussi... j'ai été catapultée avec d'autres jeunes filles qui venaient, qui avaient mon âge, qui étaient recrutées dans d'autres... Moi, j'étais au tournoi amateur avec toi. Il y avait Nathalie au tournoi Pro-Am, il y avait les tournois professionnels. Et on est devenus soudés aussi entre filles. Et c'est des amitiés qui ont duré des années et des années. Et ça, c'est aussi ça, quoi. C'est un monde d'agilité et de souplesse.
Oui, alors ça, après l'osmose, tant mieux, ça se fait. Tant mieux, ça veut dire qu'on a recruté les bonnes personnes qui étaient suffisamment intelligentes pour s'entendre. Et non pas rentrer en compétition, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les jeunes personnes rentrent souvent en compétition. Nous, on avait un leitmotiv, on avait une ambition, c'était de développer le golf en France. On avait une ambition, c'est d'installer des annonceurs dans le golf en France. Et je pense que toi, comme les autres personnes auxquelles tu fais référence, vous aviez aussi l'envie de découvrir certainement un monde que vous ne connaissiez pas, que même moi je connaissais peu, que j'appréhendais, et notamment des élucubrations. Tu parles d'automobile Peugeot à l'époque, tu parles de la marque Fred Joaillier. Bon, voilà, il fallait quand même avoir le courage de pousser la porte de ces grandes maisons et de dire on va développer avec vous une stratégie. Autour d'un sport méconnu, autour d'une activité, avec des jeunes qui n'y connaissaient rien, surtout pas le golf. Et ça, c'était incroyable. Justement, on allait chercher des gens qui ne connaissaient pas le milieu du golf. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas envie qu'ils se prennent un peu pour des stars en disant ah, « on est venu me chercher parce que je joue au golf ». Eh bien non, nous on préférait aller chercher des talents qui ignoraient tout ce sport, mais qui avaient une ambition et un dénominateur commun, c'était de réussir. Voilà.
Mais je crois que les jeunes aujourd'hui, ils ont quelque chose qu'on avait déjà nous à l'époque, c'est la curiosité. Et la curiosité fait toute la différence. On a envie de savoir.
Oui, alors, il ne faut pas opposer les générations. Chaque période a ses avantages et ses inconvénients. Nous, on était encore dans une période, entre guillemets, d'insouciance, où il était permis de prendre des risques, il était permis de découvrir, il était permis d'oser. Ce que je crois que peu de jeunes aujourd'hui ont l'opportunité.
Sans doute dans d'autres domaines.
On ose moins, on se lance moins, on se met moins de défis. On entend plus parler de défis à partir du moment où des gens sont déjà installés, et disent « bon ben voilà, je suis directeur marketing ou directeur général d'une très grosse boîte et je me lance à monter mon propre restaurant en province ou mon propre entreprise en province. C'était pas du tout les mêmes ambitions, c'était pas du tout les mêmes choix.
Eh bien, en tout cas, tu as tout à l'heure cité Fred Joyer. Fred Joyer, oui. Comme Promogolf, comme je te l'ai dit tout à l'heure, vont faire l'objet de plusieurs prochaines élucubrations. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et si tu veux intervenir à nouveau sur l'antenne de Radio U, ce sera avec grand plaisir.
Eh bien, merci à Radio U de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et d'intervenir sur cette belle émission d'élucubration très intéressante.
Bonsoir John et merci encore de ton appel.
Merci Elsa, à très bientôt.
Au revoir. Eh ben, en régie, on me fait signe à nouveau qu'un auditeur appelle du Canada. Alors là, c'est très surprenant du Canada. Bonsoir monsieur ou madame.
Oui, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Oui,
un auditeur du Canada.
Oui, mon nom est François Brunel, je suis le photographe des sosies.
Ah, mais c'est génial ça! C'est drôlement sympathique d'appeler. Vous avez écouté la chronique, alors l'élucubration de ce soir?
Oui, ben c'est très élucubrant en effet.
Ben oui, carrément. Et donc moi, comme vous l'avez lu, je me suis passionnée sur les sosies depuis longtemps. Mais... c'est gentil d'appeler. Du coup, qu'est-ce qui vous a... j'arrive plus à parler du coup, vous voyez? Alors, parce que moi, j'ai des questions. On va commencer par les questions.
Allez-y avec vos questions, s'il vous plaît.
Alors, puisqu'on est sur le domaine de la voix en radio, est-ce que les sosies ont la même voix que leur...
C'est déjà arrivé. J'ai déjà rencontré deux types qui avaient la même voix et la même apparence, et même que je les confondais tous les deux. Et... quand un s'est dit qu'il s'est présenté à moi, il s'est dit « mais c'est pas ton vrai nom », mais ils avaient la même voix. Et un autre aussi, un autre père de sosie, avait la même voix, la même apparence, mais surtout la même voix, et ça, c'était très étonnant. Mais c'est plutôt rare, plutôt rare.
Alors, en quoi consiste... on va peut-être présenter... je vous propose de présenter votre projet pour que les auditeurs prennent bien conscience du travail que vous réalisez, qui est surprenant.
D'accord. Vous voulez que je présente le projet ou
vous
allez le faire pour moi?
Ah non, je vous en prie, allez-y. Je préfère que vous le...
Ah oui, alors c'est un projet. Alors, c'est un projet que j'ai commencé il y a plus de 20 ans. C'est de trouver et de chercher et trouver des gens qui se ressemblent, ce qu'on appelle des sosies en français, et de faire une photo de eux ensemble, c'est-à-dire trouver deux sosies, les ramener ensemble devant la caméra. Et espérant qu'ils auraient une réaction un peu exagérée, genre « Ah, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça !» Et j'ai pensé que j'allais avoir une photo exceptionnelle à cause de ça. Bon, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens se rencontrent. Il y en a qui se connaissent déjà, donc il n'y a pas de surprise.
Ah oui.
Et ceux qui se voient pour la première fois, la surprise dure à peu près 15 secondes. Alors, je n'ai pas le temps de faire une photo, donc. Mais ce n'est pas grave parce que bon... Et ce qui est important, c'est de voir les deux sosies ensemble et voir qu'ils ont une identité qui est semblable. Et c'est ça qui est fascinant, c'est de voir deux personnes qui chacune se regardent dans le miroir le matin et voient la même chose. Alors, c'est ce qui me fascine. Alors, donc, j'ai commencé ce projet il y a déjà une vingtaine d'années et plus. Et je me suis promené un peu partout ici en Amérique et en Europe. Et j'ai photographié à date 250 paires de sosies. Donc, 500 personnes qui ont accepté gentiment et volontairement de participer à ce projet, qui est un peu une obsession là, de ma part de trouver des gens qui se ressemblent et les photographier.
Mais
Et voilà, ça fait partie du projet.
quelle est l'origine de cette obsession, justement?
Ben oui, c'est ça, c'est que on m'a dit pendant des années que je ressemblais à un acteur britannique, un personnage en fait de la télévision britannique qui s'appelle Mr. Bean, donc joué
Ah
par
oui, c'est vrai. Bah maintenant que vous le
l'acteur
dites, en effet.
Rowan Atkinson. Alors, et moi, bon, ça me disait rien, mais un jour, je regarde la télévision par hasard et je tombe sur un type qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et à l'époque, j'avais les cheveux courts, j'avais une cravate. J'essayais d'avoir l'air sérieux ou d'avoir l'air plus vieux que mon âge. Et là, je me vois à la télévision en train de prendre un bain et tout. Et vraiment, ça me donnait un choc parce que je me reconnaissais, mais en même temps, mais je ne voulais pas me reconnaître. Je me suis dit, non, je veux pas que ce soit moi. Ça, mais je me dis, bon, mais personne n'est au courant que je regarde cette émission de télévision-là. Mais là, l'émission s'est terminée et j'ai vu les lettres apparaître à l'écran. Ça finit toujours l'émission par Mr. Bean. Alors, je me disais, oh non, non seulement je trouve que je ressemble à ce personnage, mais des gens me disent que je ressemble à lui, donc je ressemble vraiment à lui, c'est pas juste des blagues. Alors là, il y a un fantasme mais qui est né dans mon esprit, c'est de justement de trouver des sosies et les mettre ensemble. Et je pensais que j'aurais le même choc que j'ai eu en voyant Mr. Bean à la télévision. Moi, j'étais sous le choc, honnêtement. J'étais là, la langue sortie et tout, les yeux exorbités. Et je me disais, mais c'est pas possible quand même. Et puis, ben voilà, c'est que ça l'origine.
Ah, moi, longtemps, j'ai espéré rencontrer Elsa. Bon, à l'époque où on se ressemblait vraiment, parce que ça c'est un peu, ça a un peu divergé, je trouve, avec les années. Mais à l'époque, on se ressemblait vraiment quand j'étais jeune. Et finalement, on ne s'est jamais croisés. J'aurais adoré chanter, plus qu'être photographiée, j'aurais adoré chanter avec elle. Et j'ai essayé de la contacter là, pour cette élucubration. Et bah, elle ne m'a pas répondu, mais je sais qu'elle est prise par plein de. Plein ses séries télé. Et alors, je me suis posé une question. Alors, est-ce que cette légende que je raconte dans mon élucubration ce soir, selon laquelle on a tous un sosie sur Terre, est-ce que c'est vrai?
Ben sûrement, parce que bon, j'ai parlé avec un mathématicien de l'Université de Montréal un jour, je racontais mon projet. Il m'a dit, ben, ça ne m'étonne pas que tu trouves des sosies, parce que bon, à cause d'après lui, il y avait 200 sortes de configurations du visage. Enfin, il a sorti ce chiffre-là à la volée. Mais souvent, on m'écrit et on me dit qu'on a 7 sosies dans le monde. Alors, on aurait plus que. Moi, j'en ai trouvé. J'en ai au moins trois et peut-être cinq, mais sur les cinq, il y en a deux qui sont vraiment pas flatteurs. Tu sais, c'est ça le problème, c'est que des fois, si on dit qu'on ressemble, mettons, à quelqu'un qui est très beau, ben oui, on prend le compliment. Si on ressemble à quelqu'un qu'on trouve moins beau,
Oui,
ça
c'est
va plus
sûr.
d'une insulte, alors c'est un peu délicat. Mais pour revenir à vous, c'est très difficile d'avoir l'aval des gens qui sont un peu vedettes, qui sont connus. Les agents, ils bloquent tout, ils veulent rien savoir. Moi, j'avais trouvé la sosie de Audrey Tautou.
Oui.
Écoute, c'est la fille d'une de mes amies. Elle ressemblait plus que. Il n'y avait aucune différence entre les deux. Alors, on a appelé l'agent de Audrey Tautou qui nous a juste envoyé dans les promenades. On ne veut même pas lui en parler. C'est pas assez important pour eux. Et puis je les comprends, ils sont occupés, ils ont une vie à vivre. Et probablement qu'ils sont sollicités par plein de gens pour toutes sortes de trucs. Alors, ils refusent tout, comme ça, ils peuvent avoir une vie normale.
Bien sûr,
Mais
mais c'est sûr, oui.
la sosie d'Audrey Tautou, là, et dans le temps, ça change. C'est probablement que vous et Elsa, maintenant, côte à côte, ce serait peut-être pas comme c'était il y a quelques années, ou il y a plusieurs années. Et ça, dans le temps, je m'aperçois que les sosies changent. Ils ont une courbe et tout à coup, les deux se rejoignent et se ressemblent et après ça, ils se ressemblent moins. C'est comme une coïncidence dans le temps qui arrive. Alors, c'est assez curieux.
C'est assez jeune, enfin c'est en tout cas dans mon cas c'était la jeune femme quoi, aux alentours de mes 20 ans, 18-20 ans, donc Elsa était plus jeune. Vous c'était à quel âge, Mr Bean, du coup
Ben moi, j'avais environ... Quand j'ai découvert, entre 40 et 50,
Ah
là,
oui, donc
exactement. On a parlé pendant des années, puis ça me donnait un choc, mais ça a pris plusieurs années avant avant d'avoir cette idée, là, j'étais obsédé et là, je dis, ah, je vais faire ça, ça va faire, j'ai commencé par photographier des jumeaux parfaits, des jumelles, en fait, et pour voir si ça marchait, l'idée, puis je trouvais que oui, alors oui, c'était intéressant, mais des jumeaux identiques, c'est un peu ennuyant, enfin, mais je vais pas critiquer ceux qui ont fait des projets, il y a plein de livres là-dessus, des jumeaux identiques, et je trouve ça très intéressant, et c'est toujours beau, mais c'est un peu ennuyant parce qu'ils sont tellement identiques, finalement, on cherche un peu la petite différence, parce que, ah oui, la petite commissure des lèvres qui est pas pareille, la couleur des yeux n'est pas exactement pareille, mais dans le cas des sosies, il y a beaucoup de différences parce que c'est quand même pas des jumeaux, c'est juste des gens pris au hasard dans la rue ou pas dans la rue, mais le fait qu'ils se ressemblent, et ça me fascine encore là aujourd'hui après toutes ces années.
Oh, mais je suis allée visiter votre site et c'est vrai que les portraits que vous qui sont disponibles sont vraiment intrigants et fascinants. Alors j'ai une dernière question parce que je vais être obligée de rendre l'antenne, mais si on trouve notre sosie, est-ce qu'il réconcilie quelque chose en nous et pourquoi le sosie existe? Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question. Mais
oui, là, c'est deux questions. Probablement, pourquoi le sosie existe, j'ai aucune idée. Maintenant, quand on rencontre notre sosie, moi, j'ai rencontré le mien il y a des années et la réponse, j'espère que ce ne sera pas trop longue pour vous, mais on m'avait dit que je ressemblais à un acteur de Montréal qui s'appelle Jean Maheu. Et plusieurs personnes m'ont dit « Ah, toi, tu ressembles à Jean Maheu. » Mais moi, je ne savais pas du tout qui c'est. Et finalement, j'ai décidé de faire une photo avec lui, mais même pas assez curieux d'aller voir sur Internet à quoi il ressemblait. Ça va être la surprise. Alors, il sonne à ma porte un jour. Et sachant qu'il allait venir, mettons, le lendemain, cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Quand il a sonné à la porte, j'ai fait un saut. Là, j'étais comme « Ah, on dirait que la police arrivait. » Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai découvert un homme très grand et qui avait l'air très gentil. Et j'étais très surpris parce que je m'attendais à voir autre chose. Et finalement, on a parlé. Et là, je lui ai dit, à ce comédien, donc cet acteur Jean Maheu, j'ai dit « Mais vous avez l'air très gentil. » Alors, il m'a dit « Mais toi aussi, tu as l'air très gentil. » Et là, j'étais très surpris parce que inconsciemment, je pensais pas que j'avais l'air gentil, en fait. Je pensais que j'avais l'air gentil quand je me forçais pour être gentil. Mais quand il m'a dit que il trouvait que j'avais l'air gentil, aimable et tout, et là, ça a changé mon self-image pour employer, parler un bon vocabulaire français. Et depuis ce temps, depuis cette journée-là, j'ai changé de mon estime de soi ou de moi, en fait, a changé énormément. Parce que maintenant, je sais que quand les gens me voient, ils ne vont pas être énervés. Mais moi, je pensais que les gens étaient énervés quand ils me voyaient. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ça où. Je pensais que j'énervais les gens. Je me suis rendu compte que pas du tout. Alors, ça a changé ma vie, en fait, de voir cette personne-là, qui me ressemblait à l'époque assez énormément, s'il vous plaît.
Eh bien, écoutez, peut-être que c'est ça la conclusion, parce que finalement, comme Elsa, je suis devenue artiste. Alors, est-ce qu'on devient ce que le sosie renvoie de nous, à un moment donné? Peut-être c'est une destinée, un clin d'œil qu'on rencontre
ouais,
pour devenir.
Juste pour faire un dernier commentaire, parce que il y a des psychologues qui ont fait une étude sur les sosies avec mes sujets, puis ils ont découvert qu'ils n'avaient rien en commun dans le fond. Mais je pense que ce quoi on a l'air, ça nous façonne un peu, comme nos prénoms, nos noms, ça nous façonne un peu. C'est pas un hasard. Autrement dit, si vous êtes petit, gros, chauve, avec les un œil plus gros que l'autre et tout, ben c'est pas la même vie qu'une jeune femme blonde qui a les yeux bleus, qui mesure 2 mètres, qui est mince, et qui a la peau claire, qui a tu sais, ça nous mène à avoir des vies différentes. Alors dans le fond, l'apparence qu'on a nous forge quelque part à être ce qu'on est, je crois, mais dans quelle proportion, ça je l'ignore totalement et je m'en excuse.
En tout cas, je peux vous dire que oui, vous êtes très gentil et c'est très gentil, très sympathique d'avoir appelé ce soir au standard de Radio U sur 101.1 FM depuis le Canada. Ça, c'est vraiment sympathique et je vous souhaite une bonne continuation pour votre projet. Et je continuerai à vous suivre. Je reste curieuse face à ces sosies. Et encore merci et bonne soirée, cher François Brunel.
Je vous en prie, puis bonne continuation avec votre belle émission.
Merci, Au revoir, à bientôt.
À bientôt, bye.
Eh bien, chers auditeurs, c'est fini pour ce soir. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Merci aux auditeurs qui ont bien voulu nous appeler depuis la France et le Canada. À dimanche à 21h dans les élucubrations d'Hermeline sur 101.1 FM. Et n'oubliez pas, c'est votre moment autant que le mien. L'émission est en écoute et en réécoute sur radio-u.org et en streaming en podcast. Bye bye!
Les élucubrations d'Hermeline sur Radio U 101.1 FM.